C'est le deuxième temps d'un chantier sur les absents. Voilà encore une émission imaginée avec Inès Duperron, Alice Ramon, Romain Debecq de Lièvre et réalisée par Véronique Villa. Aujourd'hui, aux manettes, Pascal Baudin.
Je vous plains. Je dis ça sincèrement. Pour votre indifférence. Un jour, vous deviendrez vous-même des détersifs et vous habiterez dans les ordures. À Spinalonga, on avait peut-être créé une société idéale, humaine. Tu sais, chez nous, on ne mourait jamais seul. On restait des jours et des nuits avec un mourant. Chez vous, on peut mourir seul. Dans un hôpital. C'est affreux.
Cher Jean-Paul, tu dis que la réalité collective du peuple, il l'a construit dans la rue, que jusque-là elle est virtuelle mais pas observable, énumérant ensuite une série de dates formalisatrices du peuple, 1830, 1848, 1870, etc. La date etc. n'étant pas forcément la moins intéressante. S'il n'y a de peuple que révolutionnaire, comment alors penser les absences du peuple entre deux révolutions n'est pas le moindre de nos soucis, à toi comme à moi, comme à pas mal d'autres. Mais privilégier et sélectionner seul les moments de haute intensité efface la ligne continue de basse intensité de vie de gens tout de même vivants quand ils ne font pas la révolution. Les années 10, édition de La Fabrique, Nathalie Quintane écrit à Jean-Paul Curnier et la conversation continue. Il est 14h passées de 2 minutes, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Et chaque semaine, nous ajoutons à nos discussions du jour l'écho de 5 histoires en lien avec le chantier thématique en cours. Pour ces 5 récits d'absence, nous nous sommes adressés à Anne Morel, qui vient de publier, avec ce qu'il resterait à dire aux éditions Hippocampe, un texte qui pense à Giacometti, pensant à une femme absente. Elle évoque aujourd'hui la figure d'un entomologiste du XVIIIe siècle qui perd la vue à 34 ans à force de travailler sur de tout petits pucerons.
Et ce personnage m'a véritablement engagée dans une rêverie sur la ténuité de la trace et la quête passionnée et obsessionnelle dans laquelle cette trace engage celui qui la suit.
On écoute Anne Morel vers 14h50. C'est le deuxième temps de notre chantier thématique consacré aux absents. Alors, quelque chose ou quelqu'un manquerait à l'appel, quelque chose ou quelqu'un ou une classe sociale ne se laisserait pas bien voir, ce qui agace toujours et demande à penser plus fort. L'hypothèse d'une classe moyenne dont on sait l'existence mais qui ne renvoie à rien, qui ne vote pas ou plus ou de rage, qui disparaît, apparaît et dont le réel embarrasse, c'est une hypothèse que vous discutez dans 2 livres récents, pour ne pas dire depuis plusieurs ouvrages, Nathalie Quintane, citons cela tout de même, Les années 10, paru aux éditions de La Fabrique, et Que faire des classes moyennes, paru aux éditions POL. Vous êtes en duplex depuis Aix. Un merci chaleureux aux équipes de France Bleu qui permettent cet échange et à vous d'être là. Bonjour et bienvenue.
Bonjour les Nouvelles Vagues. Bonjour. Merci pour cette invitation.
Nathalie Quintane. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Dans un premier temps, vous écrivez dans l'ouvrage paru chez POL que l'existence de la classe moyenne est dépendante de l'existence de classe sociale tout court. Et vous écrivez combien entre 1981 et 2000, on s'est plutôt dit qu'il n'y en avait plus de classe sociale. Qui s'est dit ça, comment et quel impact cela a-t-il eu ?
C'est un livre qui ne parle pas véritablement directement des classes moyennes, mais plutôt du discours ou des récits qu'on se raconte sur ce que seraient les classes moyennes. Alors ce « on », c'est à la fois, on va dire, de manière très large et à la truelle, les médias, et puis quelques experts que je cite dans le texte, dans le livre, et puis par boomerang et contre-coup, un peu nous tous. Ça devient en fait le discours que nous tenons sur nous-mêmes, puisque dans le livre je ne m'exclus pas de l'objet du livre, c'est-à-dire les classes moyennes, étant donné que j'appartiens moi-même à la classe moyenne. Donc ça devient un petit peu cette espèce de lourde croûte qu'on trimballe sur notre dos, comme des petits escargots de classe moyenne qui essayons de laisser une petite trace.
Mais vous citez qu'en 1981 et entre 1981 et 2000, ce discours à propos des classes moyennes change parce que l'hypothèse est faite qu'il n'y a plus de classe sociale. Qu'est-ce qui porte ce discours de la disparition des classes ?
Je crois qu'il y a un petit peu l'explosion pailletante et vibrionnante des années 80 qui s'est poursuivie jusqu'aux années 90, qui ont fait qu'on, à un moment, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient encore de votre côté, du mien à Aix, peut-être qu'à Aix on s'en souvient pas mal, ça c'est possible. Mais du côté des auditeurs, on s'est dit pendant quelques temps, rappelons-nous cette époque, que les classes sociales s'étaient terminées, qu'il y avait une sorte de pacification générale de la société ou qu'on allait vers une pacification générale de la société avec une sorte de gros bloc et puis quelques petits anormaux en bas, encore quelques pauvres et puis au-dessus les people hyper starisés, hyper friqués, etc. qu'on regardait plus ou moins avec envie. Mais en fait, ça n'a pas vraiment duré, il faut bien dire. Hein. Je fais allusion dans le livre à quelques schémas qui essayent de dessiner comme ça l'allure des classes moyennes. Et très vite, en fait, on est arrivé à une espèce de schéma en bouteille de Perrier. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des documents que j'ai pu consulter, qui fait que, en fait, les classes moyennes sont de plus en plus prises dans un goulet d'étranglement et que ça devient gros par en bas. C'est-à-dire que ça s'appauvrit. Donc les classes moyennes sont en voie de descendre dans la bouteille de Perrier, là où ça fait moins de bulles.
Et en même temps,
je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pas complètement, mais
gros,
c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. En même temps, vous dites aussi que la classe moyenne ne correspond à rien et que cela agace. Pourquoi est-ce que cela agace qu'on ne parvienne pas à circonscrire d'une certaine manière et à définir une partie de la population en France ? Et pourquoi, alors si cela agace, continue-t-on d'en parler tant ?
Bon alors moi personnellement ça m'agace pas, hein.
Bien
c'est
sûr.
Plutôt ce que je suis écrivain donc je m'en fous de les définir ou pas ou de les cerner plus ou moins exactement, c'est pas véritablement mon propos, mais je pense que les experts, les sociologues, pas seulement les sociologues, mais tous ceux qui font profession de à juste titre, hein, vouloir essayer de parler précisément de la société française ou des sociétés d'ailleurs globalisées, c'est pas seulement en France, hein, puisque je parle aussi de l'Afrique, je parle d'autres pays je fais allusion d'autres pays dans le livre. Là, j'ai constaté, j'ai pas inventé, hein, j'ai constaté que c'était un objet particulièrement fuyant, changeant, sujet à toutes les projections. Donc voilà, je rends compte de ça dans le livre, mais moi ça m'agace pas spécialement, mais j'ai remarqué que ça grattait, quoi. Voilà, classe moyenne, ça gratte.
Et pourquoi, selon vous, ça gratte ?
Parce que il y a de gros enjeux électoraux là derrière. La preuve en a été faite avec les élections récentes aux États-Unis, quand on s'est enfin visiblement aperçu que, en fait, c'était une partie des classes moyennes qui avaient voté Trump.
Vous parlez
donc ça légitimement, ça peut gratter.
Vous parlez d'un objet considéré alors par ses porteurs de discours comme un objet fuyant. Est-ce qu'il en va de même pour l'objet peuple dont il est aussi question et peut-être plus encore dans votre texte Les années 10 ?
Alors le mot est un peu, on m'a fait le reproche hein, d'utiliser ce mot-là comme ça, qui est un peu vague, qui n'était pas historiquement situé. Mais enfin bon, c'était un moyen d'essayer de comprendre ce qu'on attendait, ce qu'on espérait, ce qu'on désirait des pauvres. Et c'est un peu l'objet de ma conversation avec Jean-Paul Curnier, qui est une conversation continuée sur au moins deux livres, peut-être trois. On parlait de ça, voilà.
Et alors et vous faites...
C'était pas forcément un effort de... Une fois de plus, hein, c'était pas forcément un effort de ma part parce que je pense pas que ce soit vraiment mon travail de cerner, de donner une définition de ce que c'est que le peuple. Je pense qu'il y a des philosophes qui le font très bien, bien mieux que moi. Mais c'était un effort pour comprendre sous quelle couche d'éléments de langage un peu téléphoné et un peu automatique cette réalité-là était engoncée, couverte et quelle était la nature des projections. Il y en a beaucoup que nous faisions sur le mot et la réalité, quoi.
Puisque vous intervenez dans un chantier thématique plus large consacré aux absents, est-ce que vous diriez que ces couches de discours, est-ce que vous appeliez tout à l'heure les croûtes que l'on trimballe sur ses épaules, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre les gens absents, les effacer d'une certaine manière, les faire disparaître à l'intérieur d'un discours qui chercherait à les circonscrire ?
Je crois que les gens qu'on peut ranger comme ça un peu vite fait dans la classe moyenne ont une position assez particulière qui est que j'y fais allusion dans le livre, ce sont pour la plupart d'anciens pauvres, donc ils ont à l'évidence moi la première hein, un problème avec la pauvreté passée, celle des aïeux, celle des grands-parents voire celle des parents, et puis la pauvreté suppose-t-on éventuellement à venir. On est coincé entre ces deux menaces là et en réalité la véritable invisibilisation, elle est du côté des pauvres, bien entendu. Hein. Si je vous ai demandé de passer un extrait de L'Ordre de Jean-Daniel Paulet...
Qu'on entendait donc en tout début d'émission.
Voilà, qui est un film absolument capital là-dessus, un film magnifique, l'un des plus beaux films que j'ai vus. C'est un court-métrage hein, qui est tourné à Spinalonga, qui est une île grecque où on enfermait les lépreux. Et la personne avec la voix très particulière qui parle, c'est Raymond Dis, c'est l'un de ces lépreux qui tient le discours qu'on a entendu après, lu en français. Il parle de cette invisibilisation et de la manière des pauvres, hein, ou des mises à l'écart, des exclus. Et il parle de la manière dont cela va nous, classe moyenne, et les autres aussi, nous revenir un jour prochain.
Il parle d'ailleurs de la triste indifférence. Il dit « Je suis triste à votre propos car vous êtes indifférent ». Cela signifie qu'en faisant disparaître les autres, quoi, on prépare sa propre disparition. La classe moyenne préparerait son propre effacement, jouerait en faveur de son effacement.
Elle a choisi, je crois. Elle a choisi plus ou moins obscurément et inconsciemment, mais elle a choisi. Je fais allusion à un moment dans Que faire des classes moyennes, un tournant un petit peu dans une époque très récente, dans les années 70, début ou milieu, je ne sais plus, où dans certaines entreprises ou dans certaines usines, les cadres en fait ont eu le choix entre former à eux seuls une sorte de classe moyenne supérieure qui allait fantasmatiquement se rapprocher des patrons, hein, se rapprocher vraiment de la bourgeoisie, ou alors essayer de continuer à être une sorte à soutenir les ouvriers, à être du côté des ouvriers tout simplement. Et à ce moment-là, il y a eu un choix qui s'est fait quand même dans la plupart des gens qui appartenaient à la classe moyenne. Ils se sont dit que c'en était fini de la pauvreté, qu'ils pouvaient se dégager des ouvriers en fait, hein, ou des pauvres, et gagner d'autres rivages plus sûrs.
Ce qu'elle n'a pas toujours gagné, cette classe moyenne là, en réalité.
C'est toujours une position fragile, ou en tout cas qu'il est de plus en plus. Hein, on est bien d'accord, c'est pas une condamnation, mais je pense qu'il y a eu un moment où un choix a été fait. Le problème, c'est que ce choix n'a pas toujours forcément été conscient. Ça n'a pas été conscient comme ça. C'est avec le recul, on peut peut-être penser ça. Mais c'est un point important quand même de se rendre compte. Et là, c'est pas moi qui le dis. Hein. J'ai lu assez souvent dans la documentation les livres que j'ai pu consulter pour écrire le texte. Il y a eu de fait une sorte de lâchage des ouvriers d'abord, et puis aujourd'hui de tout ce qu'on peut ranger sous la catégorie pauvre, exclu, émigré, etc., etc., quoi. Faut le dire, je veux dire, on part passer par hein.
Alors on brade, on solde, et ce qui se trouve liquidé par les temps qui courent, c'est le peuple.
Oui, c'est pour son confort que tout cela se fait. Et alors là, il faut être prudent. Oui, c'est en même temps réellement pour son confort. C'est-à-dire que c'est un confort, j'appelle ça un confort de halte-garderie ou de... oui, c'est une infantilisation générale que Pasolini avait déjà largement constaté, sur laquelle il a beaucoup écrit, ce qu'il appelait l'hédonisme fasciste, dans le sens que c'est un hédonisme, puisque c'est fait pour le plaisir, tout y est conduit apparemment pour le plaisir et pour le moindre effort. Et en même temps, bon, ben, ça demande qu'il n'y ait plus aucune pensée, mais un assentiment à cette espèce de société, donc, d'octroi. Donc, c'est une société qui ressemble de plus en plus à, une situation de veille de Noël, quoi. Ce sont des enfants qui sont sages et qui vont avoir des cadeaux. À condition qu'ils soient infantilisés. Donc, la destruction du peuple, ça se fait aussi par son infantilisation, par, ce rapport où il lui est demandé de moins en moins et où il lui est donné de plus en plus en contrepartie. Lorsque dans une société, on peut vivre de plus en plus par des aides et qu'il n'y a pas de contrepartie dans la construction de la société, lorsque les gens, de plus en plus de gens sont écartés de la production des conditions collectives d'existence, ou la production des conditions d'existence collective, ils ne sont plus en état de maturité politique puisqu'ils ne sont plus en état de se prononcer sur ces conditions d'existence. Ils en sont simplement des bénéficiaires, mais... Alors là, évidemment, d'un point de vue moral, on dira « oui, mais bon, vous dites que qu'ils en bénéficient ». Moi, je dis qu'ils sont spoliés de la possibilité d'être adultes. On leur enlève toute la possibilité d'avoir une maturité politique, c'est-à-dire de dire « voilà, je ne suis pas pour rien dans cette société, donc je peux en parler ». Cette société n'est pas qu'un biberon, quoi.
La voix de Jean-Paul Kurny au micro d'Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain, on était en juin 2014 sur France Culture évidemment, c'est pour son confort qu'on liquide le peuple. Alors vous rappeliez tout à l'heure que vous entretenez Nathalie Quintane avec Jean-Paul Kurny une conversation ouverte sur différents ouvrages ou par des biais de lettres dont une est reproduite dans l'ouvrage Les années 10 dont je lisais un extrait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez lorsque Jean-Paul Kurny dit que c'est pour son confort qu'on liquide le peuple, sous-entendu qu'on le fait disparaître?
Je voudrais revenir sur une chose, peut-être une autre, hein, que vient de dire Jean-Paul Kurny, que je salue. Et en fait, cette conversation continue avec lui parce qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est pour ça qu'il y a une conversation. Et je voudrais revenir sur cette idée qu'il avance, qu'on infantilise le peuple. Alors, je vais me permettre de modifier très légèrement cette appréciation en lisant, si vous le voulez bien, un court passage de Que faire des classes moyennes.
Je vous en prie.
Qui, à propos des classes moyennes et pas du peuple. Alors, que les classes moyennes sont invraisemblablement biscornues et de plus en plus inquiétantes. Oui, la classe moyenne est la classe invraisemblable, persuadée, toujours par d'autres, que son ennemi intime, auquel elle était autrefois mêlée, est à présent rigoureusement enclos dans des espaces séparés. Elle s'étonne, elle se bouleverse de le découvrir, toujours par d'autres, dans son salon, sur son canapé, en train de sucer un bounty en jouant à FIFA. Je parlais pauvre. Alors, elle pleure. L'arme nouvelle de la classe invraisemblable et touchante n'est pas la petite flèche lancée dans un ciel noir de tir. L'arme nouvelle, ce sont les pleurs. Larmoi d'abord, ensuite secouée de sanglots, sanglote éperdument devant la fuite des choses, au cœur même de sa dépression profonde, dans la noirceur d'un cœur perdu de dépression, de mélancolie au sens clinique du terme, celle qui se soigne, celle qui produit les suicides, les meurtres, les internements et la camisole, et les errances dans des couloirs sales et sans fin, autour de petites tables où se déroulent des parties de cartes lobotomisées. Je peux m'arrêter là, hein?
Alors, je vous en prie, vous pouvez vous arrêter là. Ouais. Pourquoi est-ce que cette lecture-là qui déplace peut-être la lecture de ce que proposait comme terme Jean-Paul Kurny avec l'infantilisation, ce serait quoi votre proposition en retour pour cette conversation?
Mais c'est qu'on est dedans. Tout le monde est infantilisé. C'est pas simplement les pauvres, parce que là, Jean-Paul Kurny désigne les gens des cités. Il y a ça derrière, hein, l'idée que voilà, ben, qu'ils pensent qu'à s'acheter une paire de Nike et à faire du trafic et à s'enfumer la gueule toute la journée. C'est pas si simple, je crois pas. Je crois pas. Je pense pas que j'avance pas qu'il y aurait une avant-garde politique dans les quartiers populaires. C'est pas ça que j'avance. Hein. Mais il faut regarder, je crois, d'abord la poutre qu'on a tous dans l'œil. Alors plus ou moins, parce que là, évidemment, on est au micro de France Culture, et puis je continue à parler avec Jean-Paul Curnier. Oui, alors on peut se placer un peu à l'extérieur, se dire que nous, on n'est pas si infantilisé que ça.
Pas nécessairement.
Je sais pas. Mais je crois vraiment que le problème de l'infantilisation, qui est quelque chose qui passe partout, hein, dans le discours, dans l'atmosphère même, dans la manière dont dans les villes, on est dirigé de plus en plus, guidé, contraint par telle barrière, telle vigie pirate, écarlate, rouge, protubérant, tout ce que vous voulez. Si c'est pas de l'infantilisation, ça, c'est permanent. Permanent. Alors, c'est tellement permanent qu'on s'en rend de moins en moins compte. Mais je pense que ça dépasse largement le peuple ou les quartiers populaires. Hein. C'était ça que je voulais simplement pousser un peu plus et modifier légèrement.
Ce qu'on entend aussi dans la voix de Jean-Paul Curnier et qui peut nous aider à réfléchir à cette question d'absence et de présence, c'est ce qu'il dit sur la non-participation alors du peuple, derrière lequel vous mettez la population vivant dans des cités, dans les périphéries urbaines. Mais en tout cas, lui, dit-il, le peuple n'est pas associé à la production des conditions d'existence collective. En cela, ça en fait une entité qui est, d'une certaine manière, absente de la chose politique. Et que cette infantilisation ferait que on obligerait le peuple à s'absenter de la production des conditions d'existence collective, ou plus généralement de la production politique. Qu'en pensez-vous ?
Franchement, à l'époque où donc il n'y a pas si lointaine où Jean-Paul Curnier parle, oui, pourquoi pas, on pouvait formuler les choses comme ça. Mais aujourd'hui, participer à quoi ? Participer à quoi, là? On va avoir le choix entre quoi et quoi. C'est pas parce qu'on est dans la production, parce que j'ai un boulot de mon côté, que j'ai un traitement chaque mois et que je suis censée être incluse dans la production ou je ne sais quoi, que j'ai l'impression de participer beaucoup, ou en tout cas d'avoir une place particulière, privilégiée, entièrement inclus dans la société. J'ai plus cette impression-là. Je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, il me semble qu'on est dans un moment, mais c'est récent, c'est fragile, c'est en train de se faire, donc c'est difficile d'avoir des propos définitifs là-dessus, et les miens ne le sont pas. Je pense qu'on est dans un moment où il va falloir réellement, là, inventer des moyens de faire de la politique autrement que par les moyens qu'on utilisait auparavant et dont on a l'habitude. Hein. Moi, j'ai l'habitude depuis plus de 30 ans d'aller voter, de faire tout ce qu'il faut, mais là, il va falloir penser à d'autres moyens, d'autres tactiques, d'autres inventions, d'autres façonnages, d'autres choses. Et là, tout le monde va devoir s'y mettre, hein, que ce soit les gens qui ont peu d'argent ou qui sont exclus aux classes moyennes, par exemple, ou à nous, enfin, un peu tout le monde, quoi. Là, personne ne peut faire l'économie d'une réflexion et de l'imagination qu'il a, une imagination et de tous les symboles qu'on peut lever maintenant ou fabriquer ou ressusciter pour s'en sortir tous.
Vous diriez que la donnée politique, ou pour parler plus clairement, l'horizon des élections présidentielles 2017 invite beaucoup de monde à s'absenter de la chose politique, à devenir absent parce qu'il n'y a plus rien à quoi prendre part.
Je dirais que ça nous incite à devenir très 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 présents, beaucoup plus présents que ce qu'on n'a jamais été. Parce que depuis le printemps dernier, comme par hasard, j'ai quand même beaucoup réfléchi à cette histoire du vote. Moi, j'ai toujours voté, je vous le dis franchement, en particulier aux élections présidentielles. Mais bon, il y a eu des discussions, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ce printemps, pendant quelques mois, on a beaucoup discuté du fait de voter, pas voter, voter blanc, etc., etc. Et en fait, j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi au fait que je pensais, mais j'étais pas la seule de plus en plus à la politique et à la façon de faire, fabriquer puisque je suis poète en plus et écrivain, de la politique ou du politique. Et je me suis dit que je me suis souvenue de tous ces moments où je partais avec mon petit vélo pour aller mettre mon petit bulletin dans l'urne pendant toutes ces années. Et puis après, c'était fini en fait. Hein, j'étais pas spécialement, voilà, jamais été militante ni politisée particulièrement, faut pas croire. Et en fait, je me suis retournée sur toutes ces courses pour aller voter. Et je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai été absente au fond, aux politiques. Qu'est-ce que j'étais pas là. Qu'est-ce que j'étais juste dans un geste minime en réalité. Et non, je crois que là, le moment de notre retour et de notre présence et de notre retour à la présence, à une présence forte, arrive. Enfin, j'espère, en tout cas, je le souhaite.
Je vis dans l'ombre d'un buisson, mes compagnons. Compagnons de misère. Allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus. Je suis un enfant. Vous m'entendez? Qu'elle ne me reverra plus. Je suis un enfant. Perdu.
France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Nathalie Quintane, vous êtes en direct avec nous depuis Aix-en-Provence. Ici, un extrait du film Les Champs de Mandrin de Rabah Amerzaïmèche. C'est un film sorti en 2012. C'est la toute fin du film. Peut-être pour revenir sur ce texte que je lisais en introduction et tiré de votre livre Les années 10, où vous parlez de la manière de faire exister le peuple entre deux révolutions. Peut-être en prêtant attention à ce qu'il y a de vivant, y compris dans des basses intensités. Est-ce qu'il n'y a pas dans les instruments de musique utilisés ici dans la fin du film de Zaïmèche, l'idée comme ça d'un bourdon de basse intensité qui continuerait de faire exister, alors on les appelle comme on veut, le peuple et les classes moyennes, dont on a dit par ailleurs que le discours sur l'absence était très fort.
Oui, je peux pas dire mieux que ça. Le bourdon, c'est ce qui persiste, c'est cette présence qui revient, c'est un moment du film. Enfin, j'aime beaucoup les films de Rabah Amerzaïmèche et particulièrement les Champs de Mandrin. Et je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je voudrais faire bien entendre ce qui est dit à plusieurs reprises, hein, du haut de la potence, je regarde la France. Je crois qu'il y a ça qu'il faut, dont il faut se souvenir, c'est qu'on nous regarde. Hein, il y a des caméras de surveillance, évidemment, des gros yeux partout, de vigilance, de toutes les couleurs. Mais je crois que nous aussi, de notre côté, on a l'œil, on regarde. On regarde aussi ceux qui nous regardent, on les surveille aussi. Faut pas qu'ils oublient.
C'est peut-être ce qu'il faut aussi préciser dans cette idée du bourdon et de cette présence persistante qui passe peut-être sous un certain radar médiatique, sous un certain radar politique, un certain radar des sondages, mais qui continue d'être vivant, comme vous l'écrivez dans les années 10, et qui peut-être continue de regarder. C'est une complainte, la complainte de Mandrin, dont on ne connaît pas les auteurs, mais qui fait référence à un contrebandier, Louis Mandrin, qui, pour que son aventure se poursuive, dit du haut de sa potence à ses compagnons de continuer de raconter cette histoire. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous auriez confiance dans une forme confiance dans ce qui se passe dans l'invisible, confiance dans ce qui peut-être n'est pas porté médiatiquement, mais qui existe quand même.
Oui, mais il y a depuis quelques années, enfin depuis même assez longtemps, il y a de plus en plus, je crois, de livres d'historiens, de livres de sciences humaines qui sont très très attentifs à ça, c'est-à-dire à ce qui c'est raconter ce qui est passé dans les interstices, on va dire, ou en contrebande, justement, pour reprendre Mandrin. Il y a des maisons d'édition qui s'attachent vraiment à rendre compte de ces récits qui étaient assez peu recueillis, ce que se racontaient les esclaves, par exemple, ou ce que l'histoire populaire des États-Unis, par exemple, de Howard Zinn aussi. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est attaché à travailler là-dessus et à faire passer ces récits et toutes ces paroles et tous ces gestes qui étaient on va dire qui n'était pas en effet sous les radars. Donc je crois que le travail continue en ce sens, y compris chez les écrivains ou chez les cinéastes. Et la manière dont, par exemple, Amers Aimèche, comment dire, prend ça à bras le corps, le poursuit et le met, le place à hauteur de l'époque, dans notre époque, dans le présent. Ça, c'est assez difficile à faire, mine de rien. Ben, il le fait de manière très élégante et à la fois très frontal, en fait, hein, y compris dans son dernier film Histoire de Judas, où il parlait il rendait compte de l'évangile des évangiles apocryphes en mettant Judas comme ça en valeur. Quand le film s'ouvre, eh ben, on comprend tout de suite, même en costume d'époque et même dans une sorte de Palestine rêvée, on comprend tout de suite que les acteurs qui jouent les personnages bibliques sont en fait les amis de Amers Aimèche, c'est-à-dire des petits gars des quartiers. On le voit tout de suite, hein, et c'est très fort, c'est très fort. Il a vraiment trouvé le moyen de continuer cette histoire et de l'ancrer aujourd'hui, maintenant.
Alors, quand on parlait tout à l'heure de tout un discours qui prononce l'absence, l'absentéisme ou l'invisibilité des classes moyennes ou du peuple, si on fait un gros résumé, est-ce que c'est pas plutôt un diagnostic d'une partie de la population qui ou bien ne parvient pas à entendre ce bourdon ou bien ne veut pas entendre ce bourdon ?
Sans doute les deux. Je pense que oui, il faut être particulièrement en attente de ça, de ce qui viendrait, quoi, du peuple, on va dire, ou de ce qui viendrait d'ailleurs, pour remarquer des traces de ça, même s'il y a des choses évidentes. Je ne sais pas si vous allez passer la rumeur tout à l'heure, mais il y a dans le rap, enfin, des propos et des choses très claires et évidentes là-dessus. Hein, il suffit d'aller l'écouter. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de, peut-être moins chez les jeunes maintenant. C'est en train de changer. On est vraiment dans une époque où c'est en train de changer. Mais il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne sont pas encore allés trop faire traîner leurs oreilles de ce côté-là. Pourtant, où les choses sont dites et dites depuis très longtemps, depuis 20 ans, peut-être 30 ans maintenant. En France, hein, donc faut aller écouter de ce côté-là. Je pense que c'est le plus évident, le plus facile. Et après, il faut s'y intéresser réellement parce que le rap, c'est comme le reste, il y a un peu de tout, hein. Mais il y a une vraie parole qui vient des quartiers, qui passe par ce canal-là. C'est assez important, je pense, pour se repérer et saisir.
Beaucoup d'inconvénients que nous constatons actuellement et qui résultent de l'opposition des deux pôles extrêmes de l'économie, aurait certainement pu être limité si les classes moyennes avaient eu une représentation en fonction de leur importance économique et sociale. On oublie trop qu'il y a encore plus de la moitié de la main-d'œuvre qui est classe moyenne ou qui travaille chez les gens de classe moyenne. Or, si nous regardons les conseils du gouvernement, nous constatons que la place des classes moyennes est absolument dérisoire. Or, je pense qu'il serait conforme à l'intérêt général qu'au lieu de laisser les pôles de l'économie se heurter constamment, il y ait une régulation qui se fasse par les groupements moyens que constituent les cadres, que constituent les artisans, que constituent la moyenne et la petite entreprise. Mais malheureusement, il n'y a que les gens extrêmement puissants qui peuvent se faire entendre. Et ceci est tragique, car nous constatons qu'actuellement, où nous, classe moyenne, nous sommes parfaitement disposés à prendre notre part de l'effort commun et accepter les disciplines qui s'imposent, nous constatons cependant que nous sommes le plus touchés et qu'on va tuer enfin en France tout ce qui avait esprit d'initiative. Eh bien, ceci sera surtout au profit des grandes concentrations financières et je ne crois pas que finalement ce sera conforme à l'intérêt général.
Sentez-vous l'odeur cramée de ma présence? J'en paie le prix fort comme un impôt sur ma pauvre existence qui brille par son absence. Tant de branches sciées dans mon arborescence. J'ai su ce qu'était le racisme à mon adolescence. Le grand frisson d'échapper à la ratonnade. Qui veut encore me passer de la pommade? Je brûle, non par pure fantaisie, ni par hérésie, mais tellement de désir. Non, je ne me vois pas faire une croix, à peine une signature, une dédicace, à peine une grimace. Et puis je crois pas être sur la même longueur d'onde. S'ils savaient où ils peuvent se foutre leur coupe du monde. Parce que les morts, parce que les coups, parce que c'est comme ça. Et puis c'est tout, je brûle. Et puis j'ai faim de combustible. Parce que leur sale bouffe n'a rien de comestible. Passe-moi l'essence et la bouteille. Mets-y du sommeil, du soleil, de l'oseille. Je brûle. Et puis j'ai faim de combustible. Parce que leur sale bouffe n'a rien de comestible. Passe-moi l'essence et la bouteille. Moi je veux du sommeil, du soleil, de l'oseille. Ils ont soufflé sur mon foyer, m'ont envoyé la foudre avec avis de réception. Et moi, en quoi dois-je me résoudre à la vie dans ces déceptions? Ils pourront toujours aboyer, prier en allumant des cierges, crier, moi c'est des braises, plus fiévreux qu'un vierge avant sa première baise. Voyez cette soif irrémédiable, avis aux gardiens de la source, non rien n'est négociable. Je brûle, et plus rien n'arrête ma course folle. Partie des sous-sols et de mille sacrifices pour me payer leurs édifices. Et ô combien c'est difficile, fils, je brûle. Le silence, les interdits, leur paradis au goût merdique. Devenu ceinture de feu, dixième dan aux grandes dames de leurs jours heureux. Je brûle. Et puis j'ai faim de combustible, parce que leur sale bouffe n'a rien de comestible. Passe-moi l'essence et la bouteille, mets-y du sommeil, du soleil, de l'oseille. Je brûle, et puis j'ai faim de combustible, parce que leur sale bouffe n'a rien de comestible. Passe-moi l'essence et la bouteille, moi je veux du sommeil, de l'oseille. Hein, quand la banlieue s'embrase comme un torchon, c'est ce qu'on appelle de l'automutilation. Quand ça part en couille à l'horizon, plus qu'une solution, on brûle.
Voilà, vous l'appelez de vos voeux parce que je vous avais promis sa diffusion. Il s'agit du sommeil, du soleil, de l'oseille, un morceau de la rumeur auquel j'ai pensé en vous lisant Nathalie Quintane, car il est question dans ces deux livres, à la fois Les années 10 publiés aux éditions de La Fabrique et à la fois Que faire des classes moyennes publiés chez POL, il est aussi question des moments d'apparition du peuple, des moments d'apparition de la classe moyenne et aussi des moments où le peuple et la classe moyenne font le récit d'eux-mêmes. Alors vous parliez tout à l'heure des films de Rabat à Meurzaïmèche. Ici, on entend dans ce morceau-là combien de considérations sur à la fois la présence et à la fois des existences qui brillent par l'absence, si je reprends les mots exacts du morceau. Tout à l'heure, vous disiez il faut tendre l'oreille vers, par exemple, la production de rap. Il se trouve que ce morceau, il y a quelques années et qu'on aurait pu prendre des morceaux qui avaient encore plus d'années. Pourquoi est-ce que c'est un discours qui, malgré tout, n'est pas entendu, d'après vous?
Il faudrait entrer dans les méandres de ce qui se passe dans les émissions télévisées ou pas, ou de radio, qui font passer de la musique. Enfin voilà, c'est plus le moment des radios libres, dans tous les sens du terme. Même si on vient d'entendre ce titre-là sur France Culture. Et c'est aussi ça, quoi. Il faut quand même que ça soit diffusé. Ailleurs, il y a le... Ça passe par d'autres canaux qui sont évidemment YouTube, Internet, etc. Mais j'allais dire, du coup, c'est un public qui est en amont cerné quand même, qui est délimité en amont, qui est un peu moins large que, par exemple, l'auditeur qui, en ce moment, est tombé par hasard sur France Culture, a entendu ce titre sur l'autoroute. Mmh. C'est ça qui est intéressant dans la radio. C'est pour ça que je suis toujours branchée sur les radios. C'est parce que ça arrive sans que vous l'ayez choisi. Ça vous tombe dessus. Et quelquefois, il y a des petits miracles qui se font comme ça. Et il faut que ces occasions-là puissent se faire, et elles sont très très rares. C'est aussi pour ça que on est obligé de chercher, peut-être encore plus que, j'allais dire, dans ma jeunesse. J'ai l'impression que c'était presque, il y avait beaucoup moins de choses, c'était moins abondant. Voilà, il fallait se déplacer, il faut aller dans les cinémas, dans les musées, dans les bibliothèques, dans les discothèques, dans les médiathèques, etc. Mais j'ai l'impression que c'était pas forcément plus difficile de tomber sur des petites merveilles.
Ce qui pose aussi la question d'une accessibilité à la visibilité ou d'une certaine manière ou à l'audience, une possibilité de se rendre audible. Lorsqu'on parle de paroles absentes, de musiques absentes ou d'images absentes, c'est parce que peut-être, puisqu'on vous suit, une place ne leur est pas faite, pardon. Mais en même temps, je remarquais, par exemple, à l'occasion de la sortie de films récents ou à l'occasion de certains engouements récents pour de la musique, pour, je sais pas, je pense à PNL, par exemple, j'ai l'impression qu'on est toujours ravis d'entendre parler de la banlieue parisienne, de la banlieue d'autres villes de France, marseillaises, et que pour autant, ça ne rend pas... les choses actives, ça ne bascule pas dans de l'action, ça ne rend pas les choses beaucoup plus présentes politiquement. Comment expliquez-vous cette dualité de laquelle vous parlez dans votre livre en disant, en même temps, on en parle de la classe moyenne, on en parle des pauvres, mais en fait, on ne fait rien.
Mais il y a une séparation, il y a vraiment, c'est très difficile, c'est de plus en plus difficile. Je vais en profiter pour lire quelques lignes qui viennent de L'Ordre, hein. C'est quelques lignes d'un commentaire, enfin du texte de L'Ordre, le film de Jean-Daniel Paulet, qui date quand même des années 60, hein, ça remonte. Mais, franchement, elles sont pas si mal pour vous répondre. Toujours un peu à côté, bien sûr, Marie. Alors, je vous les lis. C'est le lépreux qui parle, hein, Raymond Dakis, celui qui a un discours tellement magnifique. Au début, pour nous enfermer, il fallait les flics. Il fallait une prison. Aujourd'hui, plus de gardiens, plus de barrières, un peu de persuasion, à peine. Parce que vous êtes plus humain ? Non. Simplement, la séparation est faite. La séparation est faite, c'est pas... la citation s'arrête là. Moi, je sais pas... j'ai vu à un moment, je crois que c'était il y a quelques mois, peut-être un an maintenant, hein, une grande manifestation d'associations des banlieues qui venaient à Bastille, face à l'Opéra. On pourrait simplement dire qu'il y avait eu des morts dans les banlieues et on rappelait la liste et il y avait un concert, etc. C'était vraiment, c'est rare ça, c'est très très rare, mais il faut pouvoir, hein. Il faut que les associations se démènent, qu'elles convainquent tout le monde de passer le périph, comme on dit, hein, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est très compliqué, c'est encore plus compliqué que maintenant qu'avant. Il faut être très, comment dire, réfléchir, travailler encore, être délicat et fort et courageux, et ça c'est très compliqué, c'est compliqué. Voilà.
Aujourd'hui, on est dans une vision, je dirais, post-Trente Glorieuses, c'est-à-dire que les Trente Glorieuses, c'était quand même la période où la société française s'est moyennisée. En clair, les niveaux de vie des couches populaires montaient, l'ascension sociale était une réalité, l'école jouait ce rôle-là très fortement. Et depuis une vingtaine d'années, parce que chômage de masse, parce que précarisation du salariat, parce que développement du nombre de travailleurs pauvres, on assiste en fait à une désintégration sociale des couches populaires. Alors les couches populaires, il faut quand même le dire parce que c'est en général peu souligné, sont toujours majoritaires en France. C'est-à-dire qu'on a quand même à l'esprit que finalement les couches populaires se résumeraient finalement à quelques territoires, qui sont là encore les territoires des quartiers difficiles. Or, les ouvriers et employés, c'est toujours 60% de la population active, comme d'ailleurs il y a 30 ans. Donc on est finalement sur une logique, je dirais, sociale qui est très, très prégnante. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un phénomène qui s'appelle la métropolisation. Alors c'est un peu compliqué. L'idée, c'est que se concentrent dans les très grandes villes françaises les entreprises les plus actives, les entreprises qui demandent le plus de salariés très qualifiés. On a un marché de l'emploi donc très qualifié qui se concentre dans nos agglomérations et mécaniquement arrivent dans les centres urbains les couches supérieures. Or, ce mouvement crée une dynamique une centrifugeuse, en gros, avec justement les couches populaires qui sont reléguées au plus loin. Donc au plus loin, ça définit aujourd'hui ce que sont les nouvelles périphéries. La ville s'étendant, s'étalant, on n'est plus dans une logique centre-banlieue, mais dans une logique nouveau centre et nouvelle périphérie. Les nouvelles périphéries, c'est du périurbain, c'est les lotissements pavillonnaires en général bas de gamme, très loin des centres, mais c'est aussi le rural, c'est-à-dire que les nouvelles périphéries sont périurbaines et rurales.
On est en 2004, c'est Christophe Guillouis au micro de France Inter dans l'émission Parenthèse en septembre 2004. Dans votre livre, Nathalie Quintane, vous parlez d'une façon de circonscrire les classes moyennes par le constat d'une perte de la stratégie résidentielle. Est-ce qu'il y a une possibilité, entre guillemets, géographique de définir cette classe qui par ailleurs échappe à toutes les définitions ?
Alors, je crois que si je trouve le passage où je parle de la stratégie résidentielle toujours déjà échouée des classes moyennes, j'y arrive, ça sera le mieux. Les classes moyennes, alors la stratégie résidentielle.
Vous cherchez, pour qu'on soit clair, hein, parce que vous êtes en direct, hein, je ne vous vois pas, vous êtes en direct et en duplex d'Aix, vous cherchez un passage pour le lire, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, la stratégie résidentielle. Ici, sans doute, vaudrait-il mieux parler de tactique résidentielle. En effet, l'un des critères de reconnaissance de la classe moyenne est qu'elle ne gagne par définition jamais la guerre résidentielle, qui est toujours déjà remportée par la classe du dessus, implantée là où il faut de toute éternité. Mais on peut se satisfaire d'une avancée d'une ou deux rues, d'un changement de pâté de maison, d'un transfert d'un côté de la route à l'autre, d'une petite bataille. D'autre part, lorsqu'on se livre à ces opérations bien connues de déguerpissement des populations consistant à transvaser des familles HLM d'habitat collectif en pavillon guillemets individuel, afin de les faire passer par là même de la classe pop à la classe moyenne, on visualise ces mêmes familles transposées telles quelles, comme si le toit ouvrant des 10 pavillons s'était soulevé puis refermé sur elles, désormais assis sur le canapé du salon. Après enquête qui n'est pas de moi, il s'agit de distinguer dans cette population transvasée trois sortes. Deux sortes sont bonnes, sélectionnées en amont par l'office HLM. Elles sont solvables, peu bruyantes, d'abord sympathiques, idéales de classe moyenne. On offre un pavillon parfois à des mères de famille célibataires monoparentales, deuxième sorte, parce qu'elles se sont bien comportées. Une troisième sorte, en réalité un cas, est constituée de familles HLM nombreuses, non solvables, excitées, qu'on a éclatées puis placées au beau milieu de la nouvelle zone résidentielle sous la surveillance des autres. Voilà, j'arrête là, j'invente pas, hein, je l'ai lu en fait, c'était un rapport d'un sociologue. On fait comme ça pour placer, déplacer les populations, les faire passer pense-t-on, du côté moyen, les maintenir chez les moins moyens, chez les moyens inférieurs, etc., etc. Donc la stratégie résidentielle, là, c'est... Il n'y a pas de stratégie résidentielle, il n'y a que une sorte de docilité résidentielle. Mais, comment dire ? Intégrer, enfin, faut quand même que les gens soient un peu fiers de là où ils habitent, de ce qu'il y a chez eux, de ce qu'ils sont. C'est important qu'ils soient un peu fiers. Mais simplement, ça devient de plus en plus difficile.
cloisons, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large. Enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur. Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauver de la prison. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas? Sauver de la, sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion?
Écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
14h51 sur France Culture et c'est l'heure d'écouter l'histoire du jour. On s'est tourné pour ces 5 récits d'absence vers Anne Morel qui publie ces temps-ci un livre aux éditions Hippocampe avec ce qu'il resterait à dire. Elle nous emmène sur la piste d'un entomologiste du 18e siècle.
Pensez à un absent ou à une absente, c'est pour moi aussi chercher des traces. Une trace et s'engager à suivre des traces. Alors la trace, ça n'est pas l'empreinte. La trace, c'est beaucoup plus ténue que l'empreinte. Ça peut être effectivement les marques laissées par des animaux sur un sentier, mais peut-être un peu effacées par la poussière ou le vent. Et puis, c'est quelque chose d'infiniment plus flou que l'empreinte. C'est une forme en creux, c'est un dessin en creux, mais dont les contours sont flous. Et surtout, la trace, c'est aussi, parfois, ça n'est même rien que l'impression que quelque chose nous a laissé. Donc, il n'y a pas toujours de matérialité de la trace. Ça peut être aussi ces fameux cocotiers absents de la superbe Afrique, évoqués par Baudelaire dans Le Cygne. Et puis, je pense à une anecdote qui donne envie de la développer. Enfin, je suis partie sur la piste d'un homme qui a réellement existé, un entomologiste du XVIIIe siècle, un Genevois. J'avais lu 2-3 choses à propos de ce personnage et j'ai inventé une petite anecdote presque de toute pièce, mais enfin en me fondant sur ces éléments qui étaient pour moi évocateurs dans ce que je savais de lui. Donc c'est un personnage qui a vécu à Genève au XVIIIe siècle, qui faisait ce qu'on appelait à cette époque-là encore de l'histoire naturelle, dont les travaux ont été reconnus par Cuvier, je crois. Et puis, il a appartenu à cette génération qui a vu peut-être le passage de l'histoire naturelle au début de la biologie ou de la physiologie, s'est intéressé à l'embryogenèse. Et sa spécialité, c'était la parthénogenèse du puceron. Et donc, il passait sa vie, l'œil collé à la lentille d'un microscope, pour observer un puceron au microscope. Et il a été atteint très tôt, je crois que c'était vers 34 ans, de cécité. Une cécité liée à ce travail avec le microscope. Et je me suis imaginée qu'il avait pendant des années vécu enfermé dans son cabinet de travail, occupé à régler de manière variable la lunette du microscope en faisant l'hypothèse d'une défaillance de l'appareil plutôt que de son œil, et qu'il avait passé un certain temps comme ça occupé à chercher la trace de ce puceron absent. Que cette trace du puceron pouvait se confondre avec ce qui apparaît, je crois, dans l'œil quand on perd la vue, des sortes de petits filaments. Et ce personnage m'a véritablement engagée dans une rêverie sur la ténuité de la trace et la quête passionnée et obsessionnelle dans laquelle cette trace engage celui qui la suit, enfin qui ne veut surtout pas tout perdre et s'accroche à la marque vraiment la plus infime, la plus douteuse, mais s'obstine.
La vitre du microscope, Glass of the Microscope, chantée par Ye Sayer pour terminer cette émission et ce deuxième volet de notre chantier thématique sur les absents. Merci beaucoup Nathalie Quintane d'avoir été en direct avec nous depuis Aix-en-Provence. Je rappelle le titre de vos deux Merci. Ouvrages, Les années 10 aux éditions La Fabrique et Que faire des classes moyennes aux éditions POL. Et merci beaucoup aux équipes de France Bleu qui ont permis cet échange. Les Nouvelles Vagues, ça se réécoute sur franceculture.fr, ça se podcast sur le même site internet. On peut se parler via franceculture.fr, Twitter et Facebook. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain, dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange.